Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever.
Et on va faire un petit tour européen et mondial du sport avec vous, Jonathan. Et on va bien sûr parler, pour commencer, des Jeux Olympiques d'hiver qui ont commencé vendredi à Milan Cortina et officiellement ouvert vendredi. Ils ont débuté par des huées adressées par le public milanais à l'encontre notamment de la délégation israélienne.
Il suffit de voir apparaître le drapeau bleu et blanc frappé de l'étoile de David pour que le public de San Siro siffle à tue-tête les quelques membres de la petite délégation israélienne. Pourtant, des appels avaient été lancés au préalable pour éviter ce genre de déconvenue pendant la cérémonie, mais il faut croire que le si beau drapeau de l'État d'Israël ne laisse jamais indifférents les défenseurs de la cause palestinienne et leurs nombreux sympathisants à travers l'Europe qui ont en revanche chaudement accueilli la délégation de la République islamique d'Iran, selon certains témoignages de personnes qui se trouvaient dans le magnifique stade de la cité lombarde. Ainsi va le monde, Didier.
Et oui, et après les huées du public milanais à leur encontre, eh bien, les Israéliens n'étaient pas en reste de problème, puisqu'on apprenait que la délégation israélienne s'était d'ailleurs fait dérober tous ses papiers d'identité.
Puis, selon le bobeur A.G. Edelman, leurs passeports et des objets de valeur ont été volés pendant leur entraînement, objets qui vaudraient des milliers de dollars, je cite, selon le pilote de l'équipe d'Israël, le pilote de bobsleigh. Je dois dire que l'équipe d'Israël est un excellent exemple de notre capacité à aller de l'avant malgré les difficultés. Un vol aussi flagrant, des valises, des chaussures, des équipements, des passeports, et les athlètes sont tout de suite retournés à l'entraînement. Je suis convaincu que cette équipe incarne l'esprit israélien, ensuite posté l'athlète bleu et blanc sur ses réseaux sociaux.
Alors là, on parle bien sûr des Jeux Olympiques, mais d'un point de vue politique, on va venir au rayon sportif, si vous le voulez bien. Ces trois premiers jours de compétition ont été marqués notamment par la belle histoire de l'athlète italienne Francesca Lollobrigida, avec un nom pareil. Évidemment, elle peut être que belle, l'histoire.
Eh oui, son nom parle à tous les cinéphiles que nous sommes, puisque Francesca Lollobrigida n'est autre que l'arrière-petite-nièce de l'immense actrice italienne Gina Lollobrigida, qui a donc offert à l'Italie, chez elle, sa toute première médaille de ces Jeux Olympiques en patinage de vitesse, et tout cela le jour de son 35e anniversaire. L'athlète transalpine a remporté ce samedi son premier titre olympique sur le 3000 mètres, 4 ans après avoir décroché l'argent sur cette même distance. Pour la petite histoire, Francesca Lollobrigida n'a jamais rencontré son illustre tante.
Alors, dans les Jeux Olympiques, il y a des belles histoires comme celle que vous venez de nous conter, mon cher Jonathan, mais il y a aussi des drames, et c'est ce qui s'est passé pour la descendeuse américaine Lindsey Vonn. Le rêve olympique s'est transformé véritablement en cauchemar pour elle.
Oui, soudain, le temps s'est arrêté sur la piste de la Tofana à Cortina d'Ampezzo. Public et athlètes n'ont entendu que le cri de douleur de la médaillée olympique de Vancouver. Pourtant, tout était réuni. Les conditions climatiques parfaites, une piste où elle avait triomphé à 12 reprises. La championne américaine âgée de 41 ans a semblé vouloir couper une trajectoire avant d'être emportée dans une chute. Une image terrible. L'américaine défiait le temps pour revivre le frisson olympique et mettait son corps à l'épreuve. Elle rêvait d'une nouvelle médaille d'or. Après 13 secondes seulement, elle s'est retrouvée allongée par terre. Elle a été transportée à l'hôpital pour y subir une intervention chirurgicale. C'était un pari fou que la skieuse américaine avait de toute façon tenté, puisqu'il y a une semaine, Lindsey Vonn avait lourdement chuté sur la piste de Crans-Montana et souffrait d'une rupture du ligament croisé du genou gauche. Elle s'était faite poser même une attelle en carbone. Il n'y a pas eu de miracle donc hier. Pire, cette chute marque la fin d'une carrière immense pour la championne américaine. Pour le moment, dans ces JO, la Norvège aussi, il faut le souligner, occupe la première place au classement des médailles avec 6 breloques, dont 3 en or. L'Italie en compte déjà 9 dans ces Jeux Olympiques, mais avec seulement un titre olympique. La France a ouvert son compteur hier avec 2 médailles.
Bien, et pour être complet encore concernant Lindsey Vonn, elle souffre d'une fracture de la jambe gauche. Et on va quitter les Jeux Olympiques et Cortina et Milan donc pour se retrouver à Paris. Et il y avait un grand prix de judo où le jeune israélien Yitzhak Hafshiz a créé la sensation.
Oui, une nouvelle étoile du judo israélien est née, sûrement, sur les tatamis de la capitale française. Yitzhak Hachviz, 18 ans, a décroché la médaille de bronze dans l'un des plus prestigieux tournois de la discipline ce week-end. Pour s'inviter sur le podium, l'Israélien est venu à bout du champion du monde en titre, le japonais Rujo Nagayama. Il était pourtant mené d'un wazari, mais l'athlète bleu et blanc a renversé son prestigieux adversaire pour s'imposer sur un hippon en le projetant au sol. Hachviz est actuellement considéré comme le plus grand espoir du judo israélien. Il a déjà remporté les championnats du monde d'Europe et d'Europe cadet. Et avant même d'avoir 18 ans, il décrochait l'or chez les adultes en s'imposant au Grand Prix de Lima. Sa victoire à Paris, l'une des compétitions majeures du judo mondial, confirme son ascension fulgurante au sommet de la discipline.
Et on reste à Paris, puisque hier se déroulait le Classico français. On parle de football, bien sûr. Ça se passait au Parc des Princes entre, comme d'habitude, le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Et autant dire qu'il n'y a pas eu de match hier soir entre les deux équipes. Jonathan, pour votre plus grand bonheur.
Ah oui, grand bonheur hier soir, Didier, et je ne le cache pas, c'est le cas de le dire. Ouais. Et il n'y a pas eu match entre les deux équipes. Les hommes de Luis Enrique se sont imposés 5-0 en récitant un football parfait, chatoyant, avec un Ousmane Dembélé auteur de 2 buts, illuminant de sa classe la pelouse du Parc des Princes et confirmant ainsi qu'il est le meilleur joueur de football au monde. Kvaratskhelia, Kanginli et Medina contre son camp complètent le chef-d'œuvre parisien qui reprend sa place de leader au Racing Club de Lens au terme de cette 21e journée et relègue son rival marseillais à désormais 11 points.
Vous devenez lyrique, mon cher Jonathan. Ousmane Dembélé, meilleur joueur du monde. Je pense que Kylian Mbappé ne sera pas tout à fait d'accord. On va rester dans le foot et en Belgique. Je sais que ça vous intéresse nettement moins que le PSG. Alors, on va faire un petit résumé. Les trois clubs qui occupaient les trois premières places du classement ont gagné. L'Union dans la douleur, 2-1 face à la Louvière qui avait pourtant ouvert le score. Saint-Tron en démonstration à la Gantoise, 0-4. C'est pas tous les jours que les Gantois et les Buffalo s'inclinent chez eux à domicile. Et enfin Bruges qui s'est défait 3-0, un score acquis à la mi-temps face à un Standard bien pâle. Et puis ensuite, pour le top 6, Anderlecht a été une nouvelle fois tout à fait, je dirais, amorphe. Et donc a perdu son match hier, c'était à Genk, 2-0 également. Une victoire qui ne souffre on peut rien dire sur la victoire des Genkois, si ce n'est que c'était un match très très pauvre. La Gantoise a perdu, Charleroi aussi. Et Charleroi a perdu 3-4, un match ultra spectaculaire avec des cartes rouges. Mais bref, le top 6 semble se dessiner, mais se resserre aussi. Tout le monde peut y accéder. Tout le monde peut en être exclu, si ce n'est les trois premiers qui semblent avoir assuré d'ores et déjà leur place pour les playoffs. Et donc, aux États-Unis, en football, mais en soccer, comme on dit, pas en soccer, on dit en football, NFL, National Football League, eh bien, hier se déroulait la grand-messe du football américain, à savoir le Super Bowl. Alors, pour les noctambules qui ont pu suivre le match, j'espère qu'ils en ont eu pour leur argent. Pour les autres dont je fais partie, je me fie à vous pour savoir qui a gagné ce championnat de Super Bowl, la finale du foot américain.
Eh bien, c'est les Seattle Seahawks. C'est le deuxième titre remporté par la franchise de l'État de Washington après celui acquis en 2013 face toujours aux New England Patriots. Victoire des coéquipiers de Sam Darnold, 29-13. Les Seahawks n'avaient pas disputé de Super Bowl depuis 2015 et une défaite face aux Patriots de la légende Tom Brady, que tout le monde connaît, c'était en 2015, qui visait donc, eux, un 7e titre record après les 6 glanés entre 2002 et 2019. Une rencontre marquée par le concert donné à la mi-temps de l'artiste portoricain Bad Bunny, opposé au président Trump, qui a lui qualifié le spectacle, je cite, « d'affreux » et qui fait affront à toute l'Amérique. La polémique a eu lieu également sur le spot à 15 millions de dollars financé par Robert Kraft pour la 3e année consécutive. La fondation luttant contre l'antisémitisme a diffusé une publicité durant le Super Bowl dans le but de transmettre un message de tolérance au grand public. Celui de cette année offre un portrait cliché de la faiblesse juive, je cite, un clip qui montre que les Adams font face à une haine en ligne et un militantisme anti-Israël en hausse, mais qui n'a pas convaincu dans cette publicité. publicité. Un adolescent traverse les couloirs de son lycée sous les ricanements et les chuchotements de ses camarades de classe. Arrivé à son casier, il réalise que quelqu'un a collé une note sur son sac à dos sur laquelle il est écrit « Sale juif ». Le clip, depuis sa diffusion en ligne cette semaine, a suscité des réactions virulentes. De nombreux commentateurs l'ont qualifié de déconnecté, je cite, de la réalité vécue par les adolescents juifs d'aujourd'hui et qui sont plus souvent confrontés à l'antisémitisme en ligne et dans le contexte du militantisme anti-Israël, la décrivant également comme un gaspillage d'argent et une représentation cliché de la faiblesse des juifs. Et enfin, un mot de tennis, Didier, pour dire que l'équipe belge de Coupe Davis s'est qualifiée pour le deuxième et dernier tour qualificatif avant le Final 8 de la compétition en s'imposant sans coup férir 4 matchs à 0 face à la Bulgarie. La paire Sander Gillet et Joran Vliegen ont livré un match de toute beauté pour offrir le point de la victoire à la Belgique en s'imposant par 2 tie-breaks 7-6-7-6 face à la paire bulgare.
Ah bah dites donc, s'il nous fallait un chroniqueur sportif, je pense qu'on en a trouvé un. Merci beaucoup Jonathan Serrero pour cette page sportive.